bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi, vous avez bien reposé, vous avez bien reposé, bien mangé. Et ce matin, vous êtes en pleine forme pour célébrer le premier jour de la fête. Bon, ça c'est très encourageant. Seulement le premier jour. C'est-à-dire que nous avons encore combien de jours? 7 jours pour nous réjouir devant la face de Dieu, notre Père. Frères et sœurs, aujourd'hui, le premier jour de la fête, c'est bon de nous poser une question. Cette question, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi? Si on vous pose cette question, je suis sûr que votre réponse serait « Bon, je suis ici pour garder la fête des tabernacles. » Mais qu'est-ce que c'est la fête des tabernacles? Pourquoi garder la fête des tabernacles? Pourquoi observer cette fête des tabernacles? Peut-être, vous diriez, c'est parce que Dieu nous a commandé de garder la fête. Oui, Dieu nous a commandé de garder la fête, mais Dieu a un but. Dieu a un plan, non seulement pour nous ici, mais pour toute l'humanité. Quand nous regardons le monde autour de nous, quand nous voyons ce qui se passe à travers le monde, la misère, la souffrance, le désarroi, la confusion, il faut qu'il y ait un changement. Même les gens qui n'ont aucune notion de la vérité se posent des questions. Ils se posent des questions, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il y ait un changement. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est que dans la parole de Dieu, nous avons appris que le Christ Jésus-Christ est venu sur la terre. Il nous a enseigné une nouvelle vie de vivre. Ce qu'on pourrait dire, un nouveau style de vie. Nous avons appris le nouveau style de vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a dit qu'il nous a tout révélé de son Père. Il a tout appris de son Père qui est le Dieu Tout-Puissant, celui qui a tout créé. Et Jésus-Christ nous a enseigné sa voie. Frères et sœurs bien-aimés, nous savons que le jour viendra, Jésus-Christ reviendra avec gloire et puissance. Il va changer la course de ce monde. Il va changer la façon que les hommes sont venus de vivre. Et il va bannir complètement la souffrance, le désarroi, la confusion. Tout ce que nous sommes témoins aujourd'hui. Mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu pense aussi à nous. Parce que le Christ ne va pas faire ce travail de par lui-même. Il nous a appelés dans son Église. Il nous a révélé sa connaissance. Voilà pourquoi nous sommes ici. Dieu nous a appelés. Nous avons décidé de nous repentir. Nous avions décidé de nous faire baptiser. Et nous avions reçu le don du Saint-Esprit de Dieu, qui est un dépôt de Dieu lui-même. Nous avons quelque chose en nous que le monde n'a pas, comme nous l'avions entendu dans la sermonette ce matin. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous devrions être reconnaissants d'être ici. Nous devons être très reconnaissants vers Dieu pour son appel, pour la révélation de sa connaissance et aussi de visionner notre travail, le travail que nous ferons dans le monde de demain avec notre frère aîné qui est Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, nous avons un grand privilège d'avoir la connaissance, cette bonne connaissance, cette grande connaissance, de savoir que le Christ reviendra dans sa gloire pour établir toutes choses et nous serons membres de la famille divine. Nous serons comme lui, nous serons les enfants de Dieu suprême de l'univers. Parfois on se demande, mais pour changer toutes choses, il faut avoir de la puissance, il faut avoir quelque chose de spécial. Mes frères et sœurs, vous êtes spéciaux. Et nous allons voir ça, si vous pouvez ouvrir votre Bible et vous reporter à Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. Et nous allons commencer au verset 5. Au verset 5 jusqu'au verset 14. Hébreux, chapitre 2, verset 5 à 14. Disons, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Nous avions appris ça ce matin dans la sermonette, que l'homme a une potentialité vraiment grandiose. Et nous, ici, dans cette salle, Dieu a jugé bon de nous appeler et a partagé avec nous la grande présence. Continuons. Où le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il a dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je t'ai célébré au milieu de l'assemblée. Mes frères et sœurs, ça c'est très 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 profond. Quand nous comprenons vraiment la signification, l'importance de notre appel pour devenir membre de la famille de Dieu. Nous pouvons dire que Jésus-Christ est notre frère aimé. Essayons un moment de penser à Jésus-Christ lui-même. Il est, dès le début, il a été présent au commencement avec son papa. Il a tout créé. C'est lui qui a été là lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il était là. C'est lui qui a créé la mer, les eaux, les animaux. Comprenons cela. Et maintenant, nous pouvons dire qu'un jour, nous serons comme lui. Nous aurons la même puissance qu'il a. Maintenant, continuons. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, et a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus de la servitude. Mes frères et sœurs, nous sommes ici pour vraiment pour garder la paix des tabernacles. Parfois, ce n'est pas difficile pour nous de laisser notre maison. Premièrement, Dieu nous a commandé d'épargner notre deuxième dîme. On peut dire, ah, épargner sa deuxième dîme, c'est facile. Je ne pense pas. Parfois, il y a des gens qui ne gagnent pas beaucoup. Et même quand vous gagnez beaucoup, vous dépensez beaucoup. Vous avez un budget parce que vous avez des factures à payer. Quand vous faites face à ces factures, vous regardez, ah, je pourrais dépenser cet argent. Mais non, cet argent n'est pas à moi. Ça appartient à ma dîme, ma deuxième dîme. Après avoir mis de côté la première dîme, et puis maintenant la deuxième dîme, juste pour garder la fête. Et parfois aussi, il y a la tentation, il y a des tentations. Vous avez un cas d'urgence et vous avez besoin de l'argent, vous êtes pressé. Ah, mais il y a ce montant-là sur le compte bancaire. Je pourrais utiliser ça pour acheter une voiture ou pour réparer la voiture ou pour faire quoi que ce soit ou même pour payer les factures. Ah, vous pensez, ah non, cet argent ne m'appartient pas parce que je dois dépenser cet argent pour la fête. Ça, là, parfois c'est un défi. Il y a beaucoup d'entre vous pour venir à la fête. Vous devez aller voir votre patron pour lui demander, bon, j'ai besoin 10 jours, j'ai besoin 8 jours, 9 jours pour garder la fête des tabernacles. Et parfois les gens vous regardent, vous gardez la fête des tabernacles, qu'est-ce que c'est? Vous dites, oui, mon église, nous gardons la fête des tabernacles chaque année, il faut aller dans un lieu. Vous regardez comme si vous êtes fou. Et il essaie même de raisonner avec vous, mais vous ne pouvez pas laisser votre travail pour aller garder une fête. C'est une question de religion, parce que pour le monde, ça n'a pas de sens. C'est comme le sabbat, si vous allez auprès de votre patron, vous lui dites, bon, j'ai besoin un jour par semaine pour des raisons religieuses, on ne va pas vous comprendre, on pense que vous êtes des fanatiques, on pense que vous êtes... vous n'avez vraiment rien d'autre à faire le sabbat. Et parfois, on essaie même à mettre le bâton dans votre roue, afin de vous empêcher de garder le sabbat. Ce sont là des choses qu'il faut confronter, qu'il faut affronter pendant pour venir ici à la fête des tabernacles. Et il y a aussi ceux qui sont mariés et qui ont des époux ou des épouses, l'époux, les épouses, n'est pas dans l'église. Maintenant, il faut prendre de l'argent, il faut dépenser de l'argent pour garder la fête. Parfois, ce n'est pas difficile. Même pour donner une explication, ce n'est pas possible, nous avons besoin de l'argent, il faut payer le loyer, il faut dépenser l'argent pour des choses vraiment que nous avons besoin à la maison. Et l'autre époux ne comprend pas ça. Et Dieu nous a commandé de venir à la fête. Bon, il faut prendre la résolution. Quoi que ce soit, il faut dépenser l'argent. Et il y a d'autres défis. Et parfois même des époux qui ne sont pas dans l'église. Et vous venez à la fête et pensez que vous allez passer du temps pour vous-même. Vous allez passer du temps juste pour votre loisir. Et parfois, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de foyers qui sont brisés à cause de ce genre de choses dans l'église. Nous avons des personnes dans l'église maintenant qui sont séparées parce que, à cause de la fête des tabernacles, ce sont des défis. Et Dieu le sait. Mes frères et sœurs bien-aimés, la chose est remarquable, c'est que Dieu le sait et Dieu nous a commandé d'exercer pour un but. Nous, les membres de l'Église, malgré les difficultés que nous avons, que nous devons confronter, que nous devons affronter pour la fête, nous sommes présents et nous devons Dieu nous a demandé, nous a commandé de nous réjouir. Mais pourquoi? Quel genre de réjouissance? Parfois, on a des pensées. Des pensées, on pense que bon, il faut avoir vraiment un cadre très attrayant. Il faut dépenser beaucoup d'argent. Il faut être, il faut avoir une place vraiment luxueuse. Parce que ça, c'est là une façon de célébrer le monde de demain, le monde à venir. Mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu nous a demandé de garder la fête. Nous devons faire de notre mieux pour avoir une attitude, premièrement, une attitude de reconnaissance envers lui. Notre reconnaissance envers Dieu devait être, premièrement, Dieu nous a appelés dans son église. Son appel, pourquoi Dieu nous a appelés? Dieu ne nous a pas appelés parce que nous sommes les meilleurs du monde. Nous sommes les meilleurs parmi les hommes. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes les plus instruits ou parce que nous sommes les plus élégants. Or, nous sommes vraiment les savants du monde. Non. Par contre, Dieu a dit que Dieu a appelé les faibles de ce monde. Nous sommes ici parce que nous sommes faibles. Mais Dieu nous a appelés selon sa bonté. Nous avons le privilège d'être ici. C'est un privilège. Et voilà pourquoi nous devons être reconnaissants envers Dieu pour ce grand privilège. Le privilège, pourquoi? Nous sommes ici dans une classe. Pendant les jours qui s'en suivent, nous allons apprendre une nouvelle façon de vivre. Nous sommes ici pour apprendre afin d'enseigner au monde, afin d'enseigner à la vaste majorité la nouvelle façon de vivre, la nouvelle façon de Dieu. Le monde a rejeté la vraie connaissance. Nos premiers parents ont rejeté la connaissance divine. Ils ont opté pour la connaissance de la du bien et du mal. Voilà pourquoi dans le monde où nous sommes, il y a ce qu'on appelle un mélange de connaissances du bien et du mal. Au point de vue technologique, médical, éducation, religion, la politique, tout est un mélange. On a fait beaucoup de bien. On peut compter les biens, tous ceux qui sont avec nous, ce que nous sommes en train d'utiliser pour notre confort, pour notre bien-être. Là aussi, il y a beaucoup de mal. Voilà pourquoi il y a des personnes malheureuses dans notre monde. Il y a des gens qui souffrent. Les dirigeants de ce monde sont le produit de l'éducation moderne. Notre éducation a été fondée par le philosophe Platon. Platon, lui, qui est un païen. Et tout ce que nous utilisons aujourd'hui, notre connaissance, vient du paganisme. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons beaucoup de malaise, beaucoup de frustration, beaucoup de problèmes avec les jeunes, beaucoup de crimes, beaucoup de haine dans notre monde. Violence, partout c'est la violence, c'est la guerre. Mais Dieu nous a promis, il va prendre soin de tout cela. Il va intervenir pour changer ce monde. Et nous avons la vérité. Nous avons la certitude que le jour viendra où tout sera changé radicalement. Mais nous, Dieu a une position pour chacun de nous, pour rééduquer ce monde. Nous allons nous débarrasser, le monde de cette fausse éducation. Mes frères et sœurs, lisons avec moi le livre Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 9. Genèse chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a donné un choix à nos premiers parents, le choix de la connaissance de la vie et aussi la connaissance du bien et du mal. Ils avaient le choix. Ils avaient un choix à faire. Mais disons, Satan, lui, était très rusé. Satan était jaloux. Et Satan a menti. Il est menteur dès le commencement. Il a utilisé le mensonge pour séduire nos premiers parents. Continuons. Dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, au verset 1 à 4, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu as dit, vous n'en mangerez point et vous n'y touchez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais je sais que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà. Satan a sa façon d'agir. Satan est très rusé. Ce qu'il a fait, il a planté le doute de la pensée de l'homme, de la femme d'abord. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ouais. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas. La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits du jardin, oui, mais quant aux fruits de l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y touchez point de peur que vous ne mouriez. Et le serpent a dit, ah, il a menti, vous ne mourrez point, ne vous en faites pas. Voilà notre connaissance. Partout, on vous dit, bon, faites ce que vous voulez. Vous avez la liberté. Vous n'avez pas besoin d'un Dieu pour vous dire de faire d'obéir à ses lois. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire comment vivre. Vous avez de la connaissance. Vous êtes assez intelligent. Voyez, vous êtes assez intelligent. Faites ce que vous voulez. Et le résultat, ou les résultats, nous avons un monde chaotique. Il y a des gens qui sont très aisés, qui sont très riches, ils sont trop, et la majorité des gens souffrent, sont de la souffrance. Pendant que nous sommes ici, des millions de personnes sont exposées à la famine, à des maladies. Mes frères et sœurs bien-aimés, le monde n'est pas une place vraiment attrayante pour tout le monde. Voilà pourquoi, quand Dieu nous a bénis, Dieu nous donne la santé. Quand nous avons de quoi à manger, nous avons de quoi pour prendre soin de nos besoins de base, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons lui rendre grâce. Mais avant tout, nous devons être reconnaissants pour son appel, pour sa connaissance. Satan à sa façon de séduire l'humanité. Et nos premiers parents, après avoir désobéi à Dieu, après avoir rejeté la connaissance de la vie, maintenant la terre est maudite à cause de leur action. Et le monde est en train de périr. Pour ce que nos parents ont fait. Satan a fait de son mieux pour assassiner le caractère de Dieu, en disant que Dieu a menti, parce que Dieu sait que le jour où vous mangez ce fruit, vos yeux s'ouvriront, vous aurez la connaissance. Vous serez comme lui, ayant la connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, Dieu a marqué un temps où il va rétablir toutes choses. Il va bannir la mauvaise connaissance, la connaissance du bien et du mal. Satan sera enchaîné pour 1000 ans. En ce temps-là, le monde apprendra la vraie connaissance. Et nous aurons cette opportunité d'enseigner aux gens, enseigner à nos voisins, d'enseigner à nos parents ce que c'est la vérité, la vraie vérité venant de Dieu. En ce temps-là, nous serons comme lui, nous serons comme le Christ. Nous aurons la puissance. Nous n'aurons pas ce corps physique, ce corps qui, parfois, qui nous dit, ah, nous sommes fatigués, nous sommes malades, nous avons de la douleur, il faut nous reposer. À ce moment-là, nous serons partout. Et ce matin, j'aurais aimé de prendre un peu de temps pour dialoguer avec vous. Comment nous aurons à travailler avec les gens de ce monde. Le genre de vie que nous aurons à les enseigner. Le samedi dernier, nous avions célébré le jour des expiations. Le jour des expiations marque le moment où Satan sera lié. Satan sera lié pour 1000 ans. Satan, lui, il est l'accusateur de nos frères. Comme nous l'avons appris dans le livre de l'Apocalypse. Satan nous accuse jour et nuit devant Dieu. Satan est jaloux de nous. Satan sait notre potentialité. Satan sait ce qui nous attend dans les jours qui viennent. Notre futur est brillant. Nous serons fils de Dieu. Satan, lui, il a perdu sa qualification. Jésus-Christ, lui, il est ressuscité. Il va régner sur le monde en tant que roi et nous serons avec lui en tant que roi. Il sera le roi et nous serons aussi des rois. Aujourd'hui, nous sommes ici pendant 7 jours pour célébrer la fête des tabernacles. Dieu nous a révélé cette fête. Dans les fêtes annuelles, nous avons la connaissance, nous recevons la connaissance du plan divin. Aujourd'hui, le premier jour de la fête des tabernacles représente le millénium. Pendant ce temps, nous serons la gloire, nous serons la puissance d'éduquer le monde de la voix divine. Lisons avec moi Ésaïe chapitre 11, verset 9. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 9. Il ne fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Voilà ce que sera le monde. Tout le monde apprendra la vraie foi de Dieu. Par contre, il y aura un nouveau style de vie. La connaissance de Dieu sera partout. Aujourd'hui, si vous allez peut-être au dehors, vous allez voir les gens qui travaillent et ils nous regardent. Ah, ces gens-là, ils habillent, ils sont très habillés, ils sont très élégants, ils se réunissent. Mais peut-être, que font-ils? Ils ne le savent pas. Ils pensent que nous avons une réunion, une conférence, etc. Et s'ils savaient que nous parlions comment nous allons changer le monde, mais changer le monde, sont-ils des politiciens? Et qui sont ces gens? Qui sont, ils vont enseigner le monde? Sont-ils des éducateurs? Et pour vous dire, frères et sœurs, oui, nous sommes des éducateurs. Oui, nous sommes les futurs dirigeants de ce monde. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes ici pour apprendre la vraie voie de Dieu. Pour nous réjouir de ce que le monde tout entier aura part à cette connaissance. Parce que selon Dieu, la sagesse de ce monde est une folie. Lisez ça avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Nous pouvons même commencer au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, il devienne fou, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Quelle que soit la somme de notre connaissance, quel que soit le degré de notre connaissance, même si nous avons toute la connaissance de ce monde, nous avons un doctorat, nous avons une philosophie, la philosophie, philosophie de docteur, quoi que ce soit, nous sommes ignorants devant Dieu. Notre connaissance ne vaut rien. La connaissance des savants du monde, des hommes de science, ne vaut rien devant Dieu. Dieu appelle cela la folie. Voilà pourquoi nous devons nous humilier complètement devant Dieu et de lui dire, Dieu, instruis-moi. Nous avons besoin de ta connaissance. Dieu dit que la sagesse de ce monde est une folie. Mais nous, nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne accès à la vraie connaissance. Et le jour viendra, nous aurons aussi à transmettre cette connaissance aux hommes de ce monde. Voilà pourquoi nous sommes ici pour nous réjouir. Voilà pourquoi nous sommes joyeux devant Dieu. Il est vrai que Dieu nous a bénis, pas avant toute chose. Il nous a donné un beau temps, un temps magnifique. Nous avons de belles plages. Nous avons beaucoup à manger. Nous avons un cadre vraiment attrayant. Nous le sommes reconnaissants. Mais mes frères et sœurs, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pas seulement pour bénéficier les choses matériel, mais aussi, mais avant tout, pour célébrer le monde de demain. Le millénium, lorsque Satan sera lié, lorsque les hommes diront, allons à Jérusalem, allons entendre les oracles de Dieu, allons pour recevoir la reconnaissance. Aujourd'hui, le monde ne sait rien en ce qui a fait à Dieu. Même les gens qui pensent qu'ils savent quelque chose en matière de religion, ils ne le savent pas, comme nous l'avions entendu hier soir pendant le message d'ouverture inaugurale du docteur Meredith. Il nous a dit que les gens sont déçus, ils ne le savent pas. Ils sont déçus par Satan le diable. Satan ment dès le début, il commence à mentir. Dans la politique, il n'y a pas de... On ne peut pas s'entendre. Même là où il y a vraiment... On pense qu'on est civilisé. Là, on dit que, bon, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus civilisés. Ça ne marche pas. Ils mentent pour recevoir les fautes des autres. Ils mentent pour faire les choses à leur façon. Il n'y a pas un gouvernement parfait dans ce monde. La philosophie du monde, c'est moi et moi seul. Je ne pense pas aux autres. Partout où on va, c'est l'égoïsme. C'est la compétition. C'est la convoitise. C'est la jalousie. L'envie. Ce sont là les fruits de notre connaissance que Satan a inoculé dans nos pensées. Mais Dieu nous a promis un monde meilleur. Et nous avons maintenant ce privilège d'apprendre comment rééduquer ce monde. Mes frères et sœurs bien-aimés, je pense que, et je sais que, vous avez été témoin dans votre vie des situations vraiment difficiles. Parfois, vous posez des questions. Mais y a-t-il une alternative? Vous aimeriez faire quelque chose d'autre afin de remplacer le système, mais vous êtes impuissant. Mais Dieu nous a promis, nous aurons de la puissance. Parce que nous serons comme son fils. Aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité. Vous ne pouvez même pas marcher dans les rues. Parce qu'on voit à la télévision, parfois il y a certains endroits, si vous marchez, les gens vous attaquent. Même si quand vous êtes innocent. Dans le monde de demain, on n'aura pas ça. Il y aura de la sécurité pour tout le monde. Dans le monde de demain, nous serons vraiment des protecteurs parce que nous aurons l'habilité de protéger les gens. Nous aurons l'habilité de les dire, ok, marchez à droite ou marchez à gauche. Imaginez un monde là où tout le monde est heureux. Partout où vous allez, il y a un sourire sur les visages. Tout le monde est heureux. Tout le monde est satisfait avec une vie vraiment radiante. Une vie heureuse. La paix partout. Une vie parfois quand vous marchez dans les rues. La musique. La bonne musique. Partout où vous allez, les gens sont très positifs. Partout où vous allez, on ne parle plus de guerre. Parfois, c'est vraiment triste, c'est vraiment écœurant quand vous regardez la télévision pour voir comment les gens perdent leur vie. Il y a des situations vraiment pénibles, même à regarder. Je me rappelle la semaine dernière, c'était deux semaines de cela. On montre à la télévision des gens qui ont été tués par des armes chimiques, des armes biologiques en Syrie. C'était vraiment triste de voir des petits enfants en train de gigoter, en train de d'essayer de survivre, de combattre pour leur vie. Mais en dépit de tout ça, ça va marcher. Il y a des dictateurs partout dans notre monde qui ne soucient qu'à leur pouvoir. Ils détruisent les gens. Ça ne dit rien de détruire les gens, de détruire la vie. Pour eux, la vie ne dit rien. Aujourd'hui, le monde, sous l'influence de Satan, ne fait que mentir. Les dirigeants, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne font que mentir. Ceux qui sont riches veulent accumuler beaucoup plus de richesses. L'argent n'est jamais suffisant. C'est triste. Maintenant, dans notre monde, nous avons plus de milliardaires. Si vous faites le bilan, dans les 20 dernières années, on a beaucoup plus de millionnaires, milliardaires. Mais en dépit de tout cela, ça ne marche pas. On a beaucoup plus de souffrance, plus de misère. Parce que ceux, maintenant, qui sont millionnaires, dans un moment de la durée, quand on était millionnaire, ah, c'était une grande chose. Mais maintenant, vous êtes un millionnaire, on ne va pas voir votre nom affiché dans Forbes magazine, parce que ça ne veut dire rien. Il y a, je dois vous dire franchement, il y a de la compétition entre les milliardaires. Parce que je veux être le numéro un. Je veux être le premier. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de la politique. Il y a de la compétition, de la jalousie. On emploie le mensonge. On emploie tout genre de trucs afin d'être le premier, le numéro un. Ça, c'est là la vanité, l'orgueil, la convoitise. Partout, c'est cela. À tous les niveaux. Pas seulement au niveau des milliardaires. Ça va de haut en bas. Il y a même dans les industries, les entreprises, il y a de la politique. Je me rappelle quand je travaillais à l'hôpital, ah, c'était vraiment terrible. Pour voir comment les gens jouent avec la politique, comment ils essaient toutes les manigances pour être vu par les directeurs, pour être vu par l'administration, juste pour avoir un emploi, pour avoir une promotion. C'est là notre monde. Ils essayent, ils font de leur mieux. Et avec ça, Dieu n'est pas présent. Parce que leur Dieu, c'est peut-être un homme. Parce qu'ils ne font rien pour plaire à Dieu, mais ils font tout pour plaire à un homme. Ou pour plaire à un système. Ils font de la politique. Ils font toutes sortes de flatteries. C'est de la flatterie. Ils vous disent quoi que ce soit. Juste pour recevoir une promotion. C'est la vanité, la convoitise, l'orgueil. On peut faire tout, on fait tout. Même si il faut écraser quelqu'un. Même si pour faire quoi que ce soit, pour lui détruire, on ne pense pas à sa vie, on ne pense pas à lui aussi. Voilà pourquoi que dans notre monde, le mot amour, ça n'a pas de sens. Quand on vous parle d'amour, le monde ne connaît pas la vraie définition du mot amour. Le monde connaîtra la définition du mot amour quand le Christ reviendra, quand la terre sera gouvernée par Christ et par ses saints. Nous qui sommes ici, voilà pourquoi mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes ici pour apprendre à vivre dans l'amour. Pour chercher à plaire premièrement à Dieu, témoigner de l'amour envers Dieu, notre Créateur, notre Père, et témoigner de l'amour envers notre prochain. Parce que nous savons ce que c'est l'amour. Jésus-Christ nous a défini l'amour. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Voilà. Si vous n'aimez, si vous, vous ne voulez pas entendre quelque chose de négatif à votre propos, essayez de votre mieux de ne pas vous exprimer d'une manière négative à propos de quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'amour. Si vous voulez faire quelque chose, vous voulez avoir quelque chose pour vous-même, ayez les mêmes sentiments que quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'amour. Nous aurons cette grande opportunité d'enseigner cet amour, l'amour divin au monde, parce que le monde ne connaît pas l'amour. Le vrai amour vient de Dieu. Voilà pourquoi nous apprenons les commandements. Nous apprenons à garder les commandements de Dieu. Dans le monde de demain, dans le monde à venir, nous aurons cette opportunité d'enseigner aux jeunes qu'est-ce que cela veut dire d'avoir des rendez-vous purs, comment s'entretenir. Aujourd'hui, notre monde, les jeunes n'ont pas de direction. Quand vous regardez les jeunes auprès de vous dans le monde, c'est terrible. Ils n'ont pas de respect pour l'autorité. Ils disent quoi que ce soit. Ils n'ont pas de respect pour les personnes âgées. Ils ne savent même pas comment s'habiller. Ils ne savent même pas comment se respecter. Ils n'ont pas le respect de soi. Ça n'existe pas dans notre monde. Mais nous aurons cette opportunité d'enseigner aux jeunes de se respecter eux-mêmes, de respecter l'autorité. S'ils ont un rendez-vous, par exemple, si un jeune homme a un rendez-vous avec une jeune fille, comment se comporter, comment s'exprimer, comment gagner le cœur d'une femme. Aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, les jeunes filles n'ont pas la notion de Proverbe 31. Vous savez bien dans Proverbe 31 comment la Bible nous parle d'une femme, les vertus d'une femme, la femme vertueuse. S'il y avait cela, peut-être 40 ans de cela, peut-être 30 ans de cela, aujourd'hui ça a disparu. Les jeunes filles dans le monde ne savent rien. Voilà pourquoi il y a beaucoup de jeunes, et c'est triste. Je me rappelle une jeune fille âgée de 13 ans qui portait un bébé. Elle portait un bébé, une jeune fille âgée de 13 ans. Dieu nous a donné une maturité pour pouvoir avoir une famille. Avant d'avoir une famille, il faut avoir cette maturité. Comment élever des enfants? Comment peut-on élever, éduquer un bébé, un enfant, quand on ne sait même pas, on n'a même pas l'éducation, nous-mêmes, soi-même, c'est triste. Et ça, c'est ce qui se passe dans notre monde. Des jeunes filles qui deviennent enceintes, sans même avoir la notion comment élever, comment éduquer un enfant. Il y a des jeunes hommes qui n'ont pas aucune notion comment ce que c'est être un père. Et cependant, là, ils ont des rapports sexuels, ils ont des bébés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? De la misère, ça parce que ça, c'est un siècle vicieux. On n'a pas de quoi pour prendre soin de l'enfant. Le papa, lui, il n'est pas là. Bon, il ne sait même pas qu'il est le papa d'un enfant. Parce que la plupart du temps, la jeune fille est abandonnée, toute seule. Dans le monde de demain, nous aurons cette opportunité, cette grande opportunité de rééduquer les jeunes filles, les jeunes hommes. Et ça, cela sera notre tâche, mes frères et sœurs. Partout, ce sera... Les jeunes filles seront, comme c'est écrit dans Proverbe 31, des femmes vertueuses. Nous disons dans Dans Proverbe 31, verset 30, pour qu'on lit ça, allons avec moi dans Proverbe, le livre des Proverbes, chapitre 31, et verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voilà ce que nous aurons à enseigner les jeunes filles de demain. À la télévision, on aura cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à la télévision? On essaie d'utiliser la beauté pour les commerciaux, les réclames à la télévision. Si on veut vous vendre une voiture, si on veut vous vendre un appareil de télévision, on utilise la beauté. Parfois maintenant, autrefois, on a utilisé la beauté. Mais aujourd'hui, c'est plus que la beauté. Parce que ce n'est pas seulement le visage qu'on vous montre. Maintenant, c'est le corps. Maintenant, les jeunes femmes qui sont presque nues, on vous montre la concupiscence. Avant, c'était dans la beauté. Maintenant, c'est la beauté avec la concupiscence, avec la convoitise. C'est là, c'est ça. Parce que le monde ne sait rien. Mais dans le monde de demain, nous aurons à enseigner que aux gens, la beauté est vaine. Dieu a créé la beauté. Il n'a rien de mal avec la beauté. Je ne dis pas, on n'a pas besoin d'être beau, on n'a pas besoin. Non, ce n'est pas ça. Dieu ce n'est pas la bonne explication. On n'a pas besoin d'être élégant. Non, mais ça, il ne faut pas mettre l'accent sur la beauté. Il faut avoir la crainte de Dieu. La femme qui a la crainte de Dieu. Voilà ce que nous aurons à enseigner aux jeunes filles, aux jeunes hommes, de craindre Dieu, parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, la vraie connaissance, la vraie sagesse. Le monde connaîtra la paix. Mes frères et sœurs bien-aimés, le monde sauront ce que c'est vivre en paix, vivre en harmonie. Partout, ce sera la joie, ce sera le bonheur. Lisons avec moi Ésaïe chapitre 11. Allons à Ésaïe chapitre 11. Nous allons voir le panorama du merveilleux monde à venir. Notre grande perspective. Commençons au verset 1. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de Dieu reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail comme la graisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, le petit enfant, un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. La nourrisson s'élèvera sur l'autre de la pierre. Et l'enfant s'élèvera, mettra sa main la caverne du basilic. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Voilà, mes frères et sœurs bien-aimés, voilà l'image du merveilleux monde de demain, notre grande perspective. Un rameau sortira d'Isaïe, ça c'est le Christ, notre Sauveur, notre frère aimé. Maintenant, qu'est-ce qui est assis à la droite de son Père? Le Christ qui est venu pour nous enseigner sa voie. Le Christ est venu, il a dit, j'ai gardé les commandements de mon Père. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà pourquoi nous sommes ici pour célébrer la fête des tabernacles. Voilà pourquoi nous sommes ici pour nous réjouir devant Dieu. Et le jour viendra, nous serons avec lui. Et à ce moment-là, la terre, le monde, respirera la crainte de l'Éternel. Comme je vous l'ai dit hier soir, nous sommes ici pour nous réjouir. Pourquoi? Afin d'apprendre à craindre Dieu. Dieu nous a dit, la fête des tabernacles est une façon pour nous faire une force, un moyen d'apprendre à craindre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ici. Mais nous enseignerons au monde la crainte de l'Éternel. À ce moment-là, il n'y aura point de fausse justice comme on le voit aujourd'hui. Parce que le Christ ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur une dire. Parfois, c'est vraiment Christ quand ce qu'on voit dans notre système de justice, il n'y a pas de justice. Mais Dieu va avec ça. Les pauvres seront jugés avec équité. Et prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. La justice sera la ceinture de ses flancs. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, nous nous réjouissons aujourd'hui. Quand nous voyons qu'il y a des dictateurs dans le monde qui maltraitent le peuple, qui les détruisent sans aucun remords, ils sont sans conscience, comme nous l'avions entendu hier soir dans le message du docteur Meredith. C'est vraiment triste, c'est écœurant. Mais, mes frères et sœurs, nous aurons cette opportunité de rééduquer ce monde, de juger le monde avec justice. Nous serons les juges du monde de demain. Nous aurons l'opportunité de juger les pauvres. Nous aurons l'opportunité de juger les anges, comme nous l'avions entendu ce matin dans la sermonnette. Et à propos de la fête des tabernacles, ce sera vraiment intéressant quand tout le monde pour la fête des tabernacles monteront à Jérusalem pour célébrer, pour garder la fête des tabernacles. Pensons à ce moment-là, si on vous demande, la soirée d'ouverture, le Christ sera avec nous, le Christ va délivrer le message d'ouverture. Et on vous a demandé, vous savez comment M. Giroud l'a fait hier soir, vous serez le directeur de cantique pour cette soirée. Vous avez dit, vous serez là. L'opportunité de donner la prière d'ouverture ou la prière de clôture ou de donner une sermonnette ou de faire quoi que ce soit. Imaginez cela. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui célèbrent la fête des tabernacles en Israël. Ils sont contents. Mais c'est l'Israël physique. Et je pense que C'est bien d'être en Israël, c'est bon de dire, bon, je suis là, que nous sommes là pour le Christ avec eux. Mais en ce moment-là, il n'y a pas de stupeur. Parce qu'au départ, il y avait des questions. Est-ce que c'est possible d'aller en Israël? Est-ce que c'est possible de garder la fête en Israël? Mais en ce moment-là, il n'y aura pas de confusion. Il n'y aura pas de peur. Parce que tout le monde sera joyeux de dire, allons à Jérusalem. Allons célébrer la fête des tabernacles. Imaginez, imaginons-nous, en ce moment-là, les chansons, la musique, la chorale, c'est vraiment merveilleux. Les fleurs, la décoration, l'odeur, et nous savons que, l'essentiel c'est que nous serons des êtres spirituels, mais nous aurons l'habilité de manger, de déguster aussi. Parce que le Christ, lui, après sa résurrection, il avait cette habilité de déguster avec ses apôtres. Et si nous avons des amis, nous avons des petits-enfants qui seront encore physiques, nous pourrons passer du temps avec eux. Nous pourrons dire, mon petit-enfant, vous me rappelez, c'est grand-papa. Nous sommes ici ensemble, nous allons garder la fête des tabernacles. Nous allons avoir un déjeuner ensemble. C'est pas merveilleux. Le bon de demain, la fête des tabernacles. En ce moment-là, aujourd'hui, nous sommes ici en train de nous réjouir. Mais au dehors, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui souffrent, il y a la misère. Il n'y aura pas ce genre de choses. Tout le monde sera joyeux. Nos voisins, nos voisines, nos parents, nos amis dans le monde, tous seront ensemble pour célébrer la fête des tabernacles. Avec quelle joie, quel bonheur. Et nous serons là pour les enseigner. Et vous demanderons, vous gardiez la fête des tabernacles, vous serez là. Oh oui, je savais cela. Je savais cela. Mais ne vous en faites pas. Nous sommes ici. Vraiment, c'est merveilleux. Et peut-être, en ce moment-là, David sera là pour peut-être faire un sermon, peut-être faire une sermonnette. Nous serons avec nous peut-être Jacob, peut-être Moïse, peut-être l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre seront là avec nous. Peut-être nous aurons notre chaise tout près de l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, peut-être Étienne. Étienne, c'est vous? Maintenant, nous sommes dans le monde. Vraiment. Et à ce moment-là, ce ne sera sûrement pas pour pendant 1000 ans, mais pour toutes les vérités. C'est difficile de comprendre, de mesurer ce genre de choses dans notre pensée, parce que nous sommes encore physiques. Mais une seule chose, nous avons la foi. Nous savons que les promesses de Dieu sont certaines. Parce que nous savons